sera loin pour nous rejoindre. Et donc, pour parler de ces frontières, nous avons ici Rosa Montero, qui a écrit « Des larmes sous la pluie », paru chez Métayer, un très grand roman de science-fiction. Nous avons John Connolly, qui a écrit une nouvelle aventure, une nouvelle enquête de Charlie Parker, son détective, qui est vraiment aux frontières de l'étrange, peut-on dire. Et je tiens à les remercier tous les deux parce qu'ils vont avoir la gentillesse de nous parler en français. Bon, ils ont leur traducteur à côté, donc je pense que, bien sûr, s'ils se sentent ensuite plus à l'aise en anglais, on leur pardonnera. Mais merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de faire cet effort. Nous avons Thomas D, qui a écrit du sel sous les paupières, qui vient d'avoir le grand prix de l'imaginaire cette année pour ce roman. Et nous avons Hervé Hubert, qui vient de publier Maître, Magie secrète. Alors c'est la seule victime, le malheureux n'a pas son livre. Mais voilà, il est très beau. Et donc, pour commencer cela, nous allons peut-être commencer par parler de ces lieux qui sont évoqués dans les romans et qui sont des lieux déjà aux frontières du réel, puisque chez Hervé Hubert, c'est un Paris complètement différent, puisque c'est Sequana. Quant à Thomas D, son roman se déroule comme par hasard à Saint-Malo. Nous avons John Connolly, qui est une ville qui s'appelle False Hand, dans le Maine, qui est extrêmement curieuse. Quant à Rosa Montero, nous sommes dans une ville du futur, hein, avec les aventures de Pina, qui est extrêmement curieuse. Et donc, on voit bien que là, déjà, nous sommes dans des endroits qui sont à la fois réels et en même temps, comment dirais-je, des portes sur autre chose. Alors, on commence peut-être, puisque nous sommes à Saint-Malo, honneur aux Malouins. Donc, Thomas, dans votre livre, c'est un Saint-Malo qui est quand même assez réel.
Alors, c'est un Saint-Malo qui est à la fois réel et complètement irréel. Le livre se passe en 1921-1922, le début, et on se rend compte que la Première Guerre mondiale a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'elle a duré dans notre ligne temporelle. On se rend compte qu'il y a déjà un barrage sur la Rance, alors que bon, ça a été construit plus tard. Et on voit une ville de Saint-Malo qui est sous une brume de guerre, une espèce de brouillard perpétuel. Tout est gris, il n'y a aucune couleur. Le vert a été oublié, les gens ne savent même plus ce qu'est la couleur verte. Il ne reste que du gris et il ne reste que du rouge. C'est le verre de vin rouge qu'ils vont boire le soir et qu'ils appellent le rubis de fin de soirée. Et le livre, en fait, commence à Saint-Malo, mais après glisse sur Guernesey, l'Irlande, et finit en fait dans le Cid, dans le pays des dieux celtes. Et tout le roman est un glissement du concret vers le magique et vers la magie.
Ça en fait, c'est toujours ces zones un peu frontières, et c'est vrai, cette brume de guerre, c'est quand même très étrange.
On revient toujours à Twilight Zone, enfin c'est la zone crépusculaire dont en français on a traduit ça par la quatrième dimension. Ce qui est idiot, parce que la quatrième dimension c'est le temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est. Enfin, j'ai écrit très peu de science-fiction et j'écris plutôt de la fantasy et j'écris plutôt même de la fantasy technologique sur l'Afrique ou l'Asie. J'ai toujours été intéressé par la magie. C'est vraiment ça qui est le moteur de ma curiosité. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé en Asie Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient, dans des endroits où je trouve qu'il reste encore des lieux chargés de magie, comme en Écosse, comme en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Et alors, je pense que. Un jour, la science pourra expliquer quelle est la magie de ces lieux, est-ce que c'est magnétique, est-ce que c'est... Mais je crois beaucoup aux lieux magiques, je crois beaucoup aux endroits où il y a des forces qui se déversent du sol vers le ciel. Je crois beaucoup à des endroits qui sont des carrefours. Et c'est vrai que c'est ce que je cherche dans mes voyages. Et c'est aussi ce que je cherche dans la littérature, ces endroits où la magie et le réel se mélangent et s'interpénètrent.
Alors justement, la magie, elle est très présente... Dans votre ville de
Sequana, Hervé. Alors, Sequana, c'est pareil au Grand Empire, et j'ai surtout pris plaisir à fouiller des archives pendant 10 ans, à noter tout ce qui était féerique, étrange, magique, mais documenté sur le Paris existant. Et je suis tombé sur 100, 200, 300 faits, peut-être une créature ou des faits divers ou des lieux particuliers. Et ça fourmille. Pour prendre qu'un exemple, c'est par exemple Isis, la présence pas forcément évidente de la déesse égyptienne à Paris. Parce qu'il y avait un temple à une vierge noire qu'on prenait pour Isis dans Saint-Germain-des-Prés. On a trouvé des statuettes d'Osiris quand on a construit le métro parisien au niveau de la Bastille. Elle faisait partie des armes de la ville sous la forme, une forme un peu ésotérique, mais cette particularité-là a été effacée par Napoléon III dès qu'il est arrivé au pouvoir. Donc rien que ça, l'Antiquité était présente à Paris avec les nôtres, et puis après le folklore médiéval et toutes les bizarreries qu'ont amené l'ère industrielle à Paris. Je suis complètement d'accord avec Thomas là-dessus, sur les nœuds, les carrefours de magie. Il y a Paris, il y en a d'autres. Enfin, tu parlais de l'Asie du Sud-Est. Par exemple, quand j'étais à Bangkok en famille cet été, qui est une ville fascinante, et on était dans un quartier où il y avait une tour abandonnée de 200 mètres de haut, qui sert de support industriel, de publicitaire géant. Et je commence à chercher pourquoi elle est abandonnée, etc. Et en fait, dans la ville, il y a une dizaine de tours comme ça, de 200 mètres chacune, donc dans des vrais gratte-ciels, qui ont été dressés et inachevés lors du boom économique, puis de l'effondrement dans les années 90. Et depuis, ces tours ne sont pas habitées, donc ça fait plus de 10 ans, sinon par les chiens sauvages, des meutes de chiens sauvages, et les habitants du coin de Bangkok pensent qu'elles sont hantées. Donc c'est un décor magnifique, existant, contemporain, et la magie est présente là, comme ailleurs dans le monde.
Quant à vous, John, avec John Parker qui habite à Falls End, là nous sommes au contraire dans une petite ville typiquement américaine. Elle est à la limite tellement typique qu'elle en devient irréelle.
comme ma ville. Il n'y a pas une comparaison avec Dublin et Portland. Peut-être un peu. L'état du Maine, c'est un état maritime. Oui, c'est près de la mer. L'intérieur, c'est très pauvre. L'intérieur et l'est, c'est l'est, pardon ma prononciation. C'est très pauvre, mais l'est, il y a beaucoup d'argent ici. C'est l'élément de l'État que les touristes visitent, oui. Mais pour moi, c'est une question de rationnel. J'écris les romans policiers. Et les romans policiers ont une fondation dans le rationnel, dans la logique, la croyance que le monde est... C'est possible de comprendre le monde seulement avec la logique. OK? Sherlock Holmes, peut-être. Conan Doyle, Sherlock Holmes. Hercule Poirot, les Suelles Petit Gris, The Little Grey Cells. Mais je suis Irlandais. Il y a été plus de changes en Irlande les 12 années prochaines. Les 12 années, last 10 years, les 12 années. Mais pour nous, la question est-ce que c'est possible d'être une société seulement rationnelle quand on était en même temps une société très religieuse? Il y a une complication ici, il y a une dichotomie. Et les Irlandais, peut-être, pensent que le monde est plus étrange par ça. Ce n'est pas possible de comprendre le monde seulement par la logique. Notre littérature, pour longtemps, a été la littérature fantastique, pas la littérature rationnelle, pas le roman policier. Si vous considérez les romans gothiques du 9e siècle, les premiers auteurs, les gens très importants ou plus importants, ont été anglo-irlandais. Bram Stoker et la picture de Bram Stoker et Dracula, Oscar Wilde et la picture de Dorian Gray, et deux écrivains qui sont un peu français, Charles Maturin qui a écrit Melmoth the Wanderer, Et Sheridan Le Fanu, qui a écrit au Consales. Le Fanu a été un huguenot français. Et je pense que Maturin aussi a été un huguenot. Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'ai voulu ébranler le genre policier. Vous comprenez? J'ai voulu faire une différence. J'ai pensé que la différence est de faire une combinaison de la roman fantastique et le roman policier, de faire une collision avec les deux traditions, une tradition plus irlandaise et aussi une tradition plus américaine. C'est une réponse très longue pour une question très petite.
Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous connaissez l'œuvre de Jack O'Connell?
Jack O'Connell, non.
Porno Palace.
Non.
C'est une œuvre qui se passe dans une ville imaginaire américaine qui s'appelle Consigamond. Mm-hmm. Et c'est une vraie collision du fantastique, souvent oui. très horrible, avec le roman policier.
Oui.
Et alors, j'ai pas lu vos livres, hein, mais quand je vous entends parler, je vois l'œuvre aussi de Jack O'Connell.
Oui, well, c'est un peu de même chose dans les romans de James Lee Burke. James Lee Burke a un peu de fantastique dans les romans de Dave Robichaud. So ce n'est pas... peut-être c'est les romans policiers anglais qui sont les plus conservatifs. Ils n'aiment pas de l'expérimentation comme ça. Je pense que les Américains ont plus de foi dans la capacité de genre d'encompasser l'expérimentation. Mais les Anglais, ils sont très, très conservatifs dans le genre, je pense. J'ai dit que pour les Anglais, si le genre policier est une personne blanche, il ne veut pas faire une relationship avec les gens noirs. Vous comprenez? Il n'aime pas l'expérimentation. C'est une source de grande frustration pour moi. Les critiques anglais n'aiment pas mes livres.
Ouch.
Yeah.
Mais nous, nous les aimons. Et juste pour reprendre un tout petit peu encore sur ce que vous venez de dire, quand j'ai lu votre roman, False Hand, quelque part...
Je ne comprends pas précisément. False Hand, qu'est-ce que c'est ça?
C'est la ville de Charles Parker.
Oh, Portland!
Non, mais il est à False Hand, ce petit village.
He's in a village called False Hand, apparently.
Down the room. Okay. C'est similaire d'une conversation avec James Patterson. You know, really, je n'écris ça. Je n'écris pas ça. Peut-être c'est la traduction, je pense.
Alors, vous êtes peut-être un répliquant de Rosamond Thiroux, vous êtes un répliquant de John Connolly, vous n'êtes pas le vrai.
Vous ne connaissez pas votre...
En tout cas, dans la version française, le village où habite Charles Parker s'appelle False Hand.
Ok.
Et ça m'a la ville des chutes, la fin des chutes quelque part. Et en fait, moi, ça m'évoque beaucoup Twin Peaks dans la série, c'est-à-dire ce petit village perdu dans les bois qui, quelque part, paraît à première vue, comme je le disais, excessivement normal, plus américain que ça, on meurt. Mais derrière, c'est la porte ouverte vers non plus le réel, mais l'irréel. En particulier avec cette forêt très inquiétante qui engloutit cet avion.
Well, je pense que David Lynch est un plus surréal, peut-être. Mais je pense que les réalités sont très, très importantes dans le roman policier. On doit avoir une fondation concrète Si on a une fondation concrète, c'est possible d'introduire les éléments fantastiques. Mais c'est très important d'avoir la fondation pour commencer. Pour Lynch, je pense qu'il n'y a pas plus beaucoup de cette fondation. Il n'intéresse Lynch pas, je pense. Mais si on fait ce type d'expérimentation dans le roman policier, on doit être un peu careful.
Prudent.
Les petits pas. OK. Parce que j'aime beaucoup le roman policier traditionnel. OK. C'est une fabrique parfaite. C'est une machine parfaite. OK. Comme ça. On doit avoir un degré de un élément de foi dans le genre. OK. So, l'expérimentation, on doit être, c'est graduel, c'est les petits pas. Pardon, c'est très difficile, ces concepts sont très difficiles, en français, you know, let alone en anglais.
Merci beaucoup, c'est vraiment, nous vous comprenons très bien. Et alors justement, vous avez on parlait de l'aile, dans Des larmes sous la pluie, qui est un très bel hommage en même temps à Philippe K. Dick, vous réussissez justement le paradoxe, alors que Dick fait partie de ces gens qui laissent très rêveurs par leur style et leurs idées, vous entrez complètement ces répliquants dans le réel et le réel scientifique.
Oui, merci. Ouais, eh bien, je me sens très proche à ce que Jean a dit. Je crois que le problème, c'est que les gens ont une idée de réalité qui, pour moi, c'est vraiment très petite. La réalité, pour moi, c'est quelque chose de plus grand que ça. La réalité a aussi la fantaisie, le délire, même le délire, font pas de la réalité. Le nazisme, il a été en délire, il a changé la réalité du siècle, du 20e siècle. Donc, depuis que j'étais très petite, j'ai eu toujours dans ma tête une vision de la réalité que c'est comme ça. D'une part, j'étais très très logique, très rationnelle, d'autre part, j'étais très fantastique. Et pour moi, ça c'est la réalité, la vraie réalité c'est ça. Ce n'est pas ces divisions qu'il y a ici, entre le monde extérieur, ici la réalité de la table, ici la réalité de la fantaisie. La réalité, c'est tout ça. Et pas seulement dans ma dernière roman, L'arme sous la pluie, mais dans tous mes romans, qui ne sont pas de science-fiction, mais dans tous mes romans, j'essaie de faire ce mélange de que pour moi, c'est la réalité. Et dans De l'arme sous la pluie, c'est un policier aussi, et c'est un policier de science-fiction, c'est un mélange en ça. Et c'est Madrid est dans l'année 2109, un siècle d'ici. Et je dois dire, comme tu as dit, que pour moi, c'est mon deuxième roman et c'est le plus réaliste que j'écris. Vraiment. Vraiment très très réaliste. Et même quelque chose que j'écris est devenu réel après. Par exemple, le roman a été publié il y a 2 années à l'Espagne. Et dans le roman, le jeune de moins de 18 années ont une. Comment est-ce que je peux dire? Un toque de queda, il ne peut pas aller, sortir pendant la nuit. Et je crois que ça, il a été publié, et 2 mois après avoir été publié dans la banlieue de Paris, ont mis un coup d'État pour le Jean. La réalité, c'est comme ça, non? Mais, et une autre chose, c'est que la science-fiction, c'est un genre qui, tu dois, t'es fait, tu as l'obligation d'être très précise, très logique. C'est pas comme le merveilleux, c'est pas comme dans la fantaisie pure, tu peux dire, oh, ici c'est à Paris, non? Mais dans le science-fiction, tu peux pas faire ça. Et j'aime ça. J'aime ce reto, ce défi. J'aime ce défi de faire une sorte de rompecabezas, de. Puzzle. Oui, l'anglais. Oui, puzzle. Je crois que nous faisons ça tous les humains, parce que la vie, vraiment, c'est absolument irrationnel. C'est une grande messe qui est chaotique. Et nous essayons de lui donner une apparence d'ordre avec notre roman. Et ces romans qui sont comme les policiers ou comme la science-fiction, et si tu mélanges les deux choses, c'est comme ça, sont comme l'apparence, un très grand jeu pour jouer à croire que la vie a un sens, qu'il n'y a pas, je veux dire. mes romans, c'est dans ce frontière, comme j'en ai la vie, de la construction du sens sur l'abîme de le sin sentido.
Il n'y a pas de sens.
De l'absence de sens. Ouais.
John?
Pardon, mes devoirs. Quelques qui sont le monde que vous avez créé, ils sont des règles. On doit avoir des règles. Mais peut-être la situation, le setting of the novels, le monde des romans, c'est un élément. Tous les écrivains ont seulement une ou deux grandes idées. Et nous approchons ces idées avec le prochain roman, chaque roman, ok? Et, c'est comme une spirale. On approche un plus près de la grande idée, de la grande vérité avec chaque roman. Et s'il est un roman policier, un roman science-fiction, un roman fantastique, je crois qu'ils sont tous éléments du même monde. Oui? Pour moi, par exemple, c'est la jeunesse. La jeunesse est le grand sujet dans tous mes romans. Si j'écris pour les petits jeunes, pour les jeunes hommes et filles, dans un roman comme Le Livre des Choses Perdues, pour les adultes et les jeunesses à la même temps, ou dans le roman policier, c'est la jeunesse. I mean, vous examinez votre roman et vous aussi un pattern similaire, peut-être?
En fait, jeunesse, oui, parce que je crois que j'ai gardé 14 ans d'âge mental ici, donc, et j'essaie de le cultiver, pas oublier ça. Et on tourne autour d'une idée, effectivement, je pense, moi je ne l'ai pas encore trouvée, je pense que je la trouverai juste avant de mourir ou juste après, comme dans le gag des Monty Python, une castle of art, j'essaie de donner ma localisation, il meurt juste avant. Je sais pas, moi, peut-être l'idée autour de laquelle je tourne dans mes bouquins depuis toujours, c'est la mort.
Le mot.
Voilà.
Okay.
Parce que je pense qu'il y a un truc quand même assez épatant quand on me demande pourquoi j'écris du fantastique. C'est on est quand même des animaux conscients qu'à un moment ça s'arrête. Bon, il y aura des réponses religieuses, philosophiques ou pas de réponses, mais on sait que ça s'arrête. Et ça, c'est la porte ouverte sur le fantastique, sur les brumes, sur tout ce qui est possible. Et on peut faire de notre vie un roman, effectivement. On peut établir des règles et on peut mélanger les genres, sachant ça, assumant ça complètement. Et ça se traduit de manière littéraire pour chacun à sa manière. Et savoir ça, c'est aussi une force.
Et le monde que vous créez, servir l'idée.
Moi, je tourne toujours autour de cette idée-là. Je gère mes angoisses avec. J'essaie de donner des solutions plutôt humoristiques. Et puis, c'est mon moteur principal, si vous voulez. J'ai pas tombé l'ambiance. Hein.
Bon, ben, je peux faire pire. À l'exception de ce livre-là, du 16 Fruits au Pierre, tous mes livres tournent autour de la violence. C'est vraiment le sujet que j'aborde depuis, ça fait 20 ans, même plus, que je publie.
Avec la scène des casseurs, par exemple.
Oui, par exemple, mais j'ai quasiment écrit que des livres qui parlent de violence. Et c'est vrai que maintenant, je suis papa de deux garçons. Et le fait d'être père, d'avoir deux enfants, etc., ça m'a créé d'autres intérêts. Et Du ciel sous les paupières, c'est le premier roman où je me suis justement penché sur la jeunesse, sur l'amour, sur l'amitié. Et c'est vrai que quand j'avais mis un post-it sur mon ordinateur, pas de sexe, pas de violence. Et
c'est pas très punk.
Et, et après, j'avais remis un post-it, j'avais mis pas de sexe, pas de violence. Et le second post-it, c'était de l'action, de l'amour. Remplacer la violence par l'action et remplacer le sexe par l'amour ou l'amitié. Et c'est très, très dur à faire. En fait, c'est beaucoup plus facile d'écrire des livres avec du sexe et de la violence. Et d'ailleurs, là, j'écris avec du sexe et de la violence. Mais, donc moi, c'est vrai que tout tourne autour de la violence, parce que je trouve que la violence, c'est un genre en soi. Moi, si on me demande vous êtes quel genre de livre vous écrivez, alors j'ai écrit un polar, j'ai écrit la littérature générale, j'ai écrit des trucs de voyage, j'ai écrit... Donc il n'y a pas de genre, je ne suis pas un écrivain de polar ou je ne suis pas un écrivain. Mais par contre, ce qui revient tout le temps, c'est la violence. Donc la violence, elle peut être très drôle, comme dans Pulp Fiction, quand John Travolta fait exploser la tête du gamin avec son pistolet. Elle peut être vraiment terrible, comme dans l'autre film de Tarantino, il coupe une oreille avec un rasoir. Et puis elle a plein de déclinaisons. Et c'est vrai que c'est mon sujet, c'est le truc autour duquel je tourne depuis 20 ans.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, pour moi c'est difficile de savoir de choisir selon un sujet, mais je crois que je parle de la mort aussi, oui. Mais dans le sens de parler toujours tous mes personnages, mais le principal personnage, sont des survivants. Parce que ce que je suis de plus en plus étonnée et maravillée, c'est de la capacité de survivance de l'être humain. Même si tu peux te couper tes jambes, mais tu peux te réinventer. Tu peux, et nous avons une dit à l'Espagne qui dit que Dieu ne te donne tout ça que tu peux supporter. Parce que nous pouvons supporter presque tout. Et ça, c'est merveilleux. Mes romans sont tous des survivants. Et aussi, l'autre sujet que c'est très important pour moi, c'est la irréalité du réalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance de rien, de notre mémoire. Notre mémoire, c'est une invention, de notre identité. Notre identité, c'est notre invention parce que l'identité est basée dans les mémoires. La réalité, c'est vraiment une construction fantastique.
Ça, c'est très bien.
Oui, c'est très bien. Ça, c'est pour ça que j'aime Dick.
Mais c'est vrai que dans Des larmes sous la pluie, la mort, qui est pour l'instant la frontière ultime, elle est toujours très présente. Moi, j'ai été émerveillé par le rythme du roman. Chaque matin, votre Bruna se réveille. Alors, Bruna est une réplicante, c'est-à-dire une sorte de clone, quelque part. Et les clones naissent à 25 ans, mais ils ont 10 ans de durée de vie. Et tout le roman est rythmé par les réveils de Bruna, qui chaque matin fait le décompte un jour de moins sur ce qui lui reste à vivre.
Ça, après 4 années, 7 mois et 25 jours. De 4 années, 7 mois et 24 jours. Oui, très incroyable.
Et ça, c'est très effrayant. Et vous avez, oui. Et il y a aussi chez vous la violence et le sexe.
Oui. C'est, mais la question, c'est que nous avons de la sorte de ne savoir pas quand est-ce que nous mourrons. Parce que je ne sais pas vous, mais je suis obsédée par la mort aussi, comme vous, bien sûr. C'est pour ça que nous écrivons. Je crois que j'ai la théorie que nous, les romancières, nous sommes des personnes qui ne pouvons pas oublier la mort si facile comme la moyenne des personnes.
Pardon. Tu as une question Non, Jean-Pierre, si tu veux. N'hésite pas. Monsieur Fontana, qui est président du Grand Prix, mais fondateur du Grand Prix d'Imaginaire, qui est au premier rang, donc si tu as une question, n'hésite pas.
Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Simplement, à partir du moment où on écrit, on peint, on fait un certain nombre de choses,
celle-ci, c'est plus long, je crois. Non, mais voilà.
Oui, je voulais simplement dire que, en fait, tous les créateurs, s'ils créent, c'est une façon de se survivre, parce que, à partir du moment où on meurt, s'il reste quelque chose de soi, c'est une manière de continuer de vivre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, mais c'est très prétentieux.
Oui.
Je ne crois pas que mes livres seront lus après ma mort. Même avant ma mort, ils ne seront pas.
C'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois que c'est un peu vrai malgré tout. Parce qu'on veut laisser quelque chose en héritage. Bon, il y a des auteurs, par exemple, si on prend des romanciers, il y en a qui disparaissent complètement, et puis il y en a qui survivent pendant très longtemps. C'est pareil pour les peintres, les sculpteurs. Enfin, en fait, tous les créateurs. Je crois que quelque part, peut-être même inconsciemment, c'est une façon d'exorciser un peu la mort. Voilà. C'est mon point de vue.
Oh, gosh. je suis définitivement en français. En France. Je pense que nous n'écrivons pas par les âges. Par les âges, oui. Mais il est nécessaire d'écrire comme nous écrivons par les âges. Vous comprenez? C'est l'immortalité n'est pas pour nous de choisir. Okay? L'immortalité littéraire, la réputation post-mortem, ce n'est pas possible pour moi de faire ce choix. Et on doit simplement écrire le roman plus mieux, le roman mieux à chaque temps. À chaque temps, je suis très désolé, c'est une question très difficile. L'année pour une des Booker Prize, oui, okay, pour une de ces cérémonies. Un écrivain littéraire irlandais a dit quand il a gagné le prix, qu'il a été une victoire pour le littéraire. Ok? Ok. Vous ne pouvez pas dire ça. Non. Ok? C'est votre livre, vous ne pouvez pas. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour vous. OK? So, on doit être très, très prudent quand on répondait à une question comme ça.
je crois qu'on va pouvoir passer aux questions avec Jean-Pierre Fontana qui a commencé. Donc, je pense qu'en fait, là, il y a eu déjà des batteries, beaucoup d'idées qui ont été lancé et je pense que dans la salle, vous avez peut-être envie de réagir et de poser des questions aux auteurs à partir des sujets qui viennent d'être abordés.
Là, c'est très dur.
C'est difficile.
Pour moi aussi.
Bon, alors.
Là-bas. Très simplement, est-ce que vous utilisez un peu la science dans vos romans pour essayer d'expliquer vos domaines, enfin les domaines sur lesquels vous travaillez ou pas? Est-ce que vous avez des références ou des idées scientifiques?
Moi? Oui, bien, je suis, comme nous disons, à l'Espagne, de lettres. Mon éducation, c'est humaniste. Et je n'ai pas, par exemple, la mathématique, c'est terrible pour moi, mais j'adore les sciences et je lis beaucoup de livres de divulgation scientifique. C'est pour ça que j'aime aussi la science-fiction. Et bien sûr que dans mes livres, il y a quelques... j'ai essayé, pas seulement pour faire ce mapping d'un siècle plus âgé, Mais pour tout le monde, j'ai essayé de raconter l'histoire de le monde dans ces siècles. Et j'essayais de faire quelque chose de vrai, que ça serait possible même dans la part scientifique, que c'est le plus facile, je veux dire, mais aussi dans la part sociologique que vient de ces échanges scientifiques, et de la façon que le gens peut voir la vie. Et, oui, j'ai essayé de faire ça, oui. Et il y a de la télétransportation, par exemple, il y a des problèmes, le problème qu'on peut avoir avec ça, il y a de la dérivation des lots avec la nouvelle technologie et tout ça, oui. La science, il y a quelque part de grand dans le livre, je crois, non?
Absolument. En revanche, je sais pas, pour nos trois autres auteurs, la science est moins apparente parce que là, nous sommes plutôt dans le fantastique chez les trois. Et donc, les règles scientifiques pures et dures peuvent être enfreintes puisque nous passons sur un autre plan.
Ouais, ça dépend des textes qu'on écrit parce que, enfin, moi j'ai écrit des nouvelles sur l'écologie là, qui vont paraître en septembre. Et pour ces nouvelles-là, j'ai fait beaucoup de recherches. Par exemple, il y a une nouvelle qui se passe à Fukushima. Et je fais beaucoup de recherches sur Tchernobyl, Fukushima, ce qui se passe, les radiations, comment ça fonctionne, pourquoi il y a plein de vie maintenant à Tchernobyl, et il y a plein d'animaux sauvages, et pourquoi ils ne meurent pas tous de cancer et autres. Donc ça dépend vraiment des sujets. Et moi, je me suis aperçu un truc, à force d'écrire, c'est que paradoxalement, je préfère le travail de recherche, de documentation. J'adore chercher des idées, mettre mon nez dans des livres et des vieux livres et tout, que le travail d'écriture. Le travail d'écriture, c'est un travail qui est très fatigant. Le travail de recherche, c'est un travail de curiosité, c'est un travail de lecture. Ça ne demande pas le même investissement. Et puis, on découvre plein de trucs qu'on n'aurait pas découvert autrement. Je pense que quand on écrit de la science-fiction, il faut être rigoureux, d'un point de vue scientifique. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a plein de livres de science-fiction qui ne sont absolument pas rigoureux, ou plein de films de science-fiction qui ne sont pas rigoureux, comme Star Wars, où les vaisseaux spatiaux font du bruit dans l'espace. Et ça ne nous gêne pas pour apprécier ces œuvres-là. Donc après, c'est le choix du créateur. Voilà, moi, je préfère que ce soit, qu'il n'y ait pas trop de bêtises scientifiques dedans, mais bon, je ne suis pas scientifique, donc il y en a forcément, quoi.
Chez vous, tu es plutôt dans la métaphysique.
Oui, pas seulement la métaphysique. J'écris les romans pour les jeunes, pour les petits. Les portes, les cloches d'enfer, le troisième est sorti en octobre. Et dans ces romans, un petit enfant, Samuel Johnson, a été en conflit avec le diable. Okay? Mais la fondation pour ces romans est la physique quantum physics. Okay? C'est nécessaire pour moi d'approcher les professeurs dans l'université à Tabla pour répondre mes questions sur le topic de quantum physique. J'ai expliqué la fondation de roman à ses professeurs et il m'a dit vous connaissez que nous voulons pas ouvrir les portes d'enfer. Je réponds oui. Et vous connaissez aussi que l'enfer n'est pas existe. OK? je connais ça. Oui. Bon, OK. Maintenant, nous vous aidons. C'est très intéressant de faire une combination d'études. OK? Une combination des scientifiques durs, et aussi les éléments fantastiques. Mais les gens scientifiques, peut-être, n'approuvons pas. Il y a beaucoup de soupçons, peut-être.
C'est vrai que dans vos romans, moi, d'ailleurs, je souligne que John Connolly a été lauréat du Grand Prix d'Imaginaire pour son premier roman pour Les Portes de l'Enfer. Et donc,
moi, en France, pas en anglais. En Angleterre. Vive la France.
Chaque assiette, les Français sont des gens de bon goût et nous avons une profonde amitié pour l'Irlande, donc, et les Irlandais. Mais je pensais, au niveau métaphysique, je pensais plus à la colère des anges.
Pardon, I'm sorry, I wasn't listening. Pardon, je connais que quand je suis à tes finis.
Je pensais aux métaphysiques pour la colère des anges.
Ouais.
Où là, mettait en scène certains des personnages, en fait, sont des anges déchus. Mm-hmm. Donc on est passé dans un autre domaine que celui de la science.
Je suis catholique. Je suis un catholique très, très mal. Je n'attends pas la langue lisse, à l'exception de Noël.
Oui, Noël. Noël.
Je crois dans le choix pour la femme. So je suis un catholique très, très terrible. Mais ma jeunesse, les croyances de ma jeunesse, de mon jeunesse, sont encore très forts. Et ces croyances s'informent à mes livres. C'est impossible de get rid of, de se débarrasser de vos croyances. De votre jeunesse. Mais dans mes romans, il n'y a pas une mention de le Dieu. Les romans n'ont pas religieux. C'est une différence entre le religieux et le spirituel et le scientifique. Ce n'est pas les mêmes choses. C'est un élément de la catholique dans ce roman. Parce que le roman policier, le roman noir que j'aime beaucoup, je pense, James Lee Burke et Dave Robichaud, Michael Connelly et Harry Bosch, Kenzie and Gennaro roman de Dennis Lehan. Dans tous les romans, on a un homme qui cherche la rachat. La rédemption, oui. Et pour moi, si on a une jeunesse religieuse, la rédemption est enchaînée avec un élément très fort de religieux, de spirituel. So, pour moi, c'est difficile de faire une séparation entre les deux, peut-être.
Et chez vous, dans vos livres, où déjà les personnages ont l'avantage d'être dans un monde où c'est la science de l'époque du Second Empire, donc ils peuvent enfreindre des lois qui n'ont pas encore été
décidées. C'est une science pittoresque, oui, qui n'est pas probable du tout. Moi, la science, je ne comprends pas un schéma électrique, même le plus simple. Donc, et pour revenir à ce que tu disais sur la jeunesse, ce qui nous forge dans la jeunesse, etc. Et mon unique ouverture scientifique, moi, je me souviens. Ce qui m'a aussi amené à écrire du fantastique et être ouvert sur le merveilleux, etc., et à pouvoir consacrer mon boulot à ce combat-là. C'était un professeur des écoles, quand j'avais peut-être 8-9 ans, qui nous a dit, qui était assez étonnant, il nous a dit, la nuit, vous savez, vous voyez les étoiles, et oui, il y en a certaines qui sont mortes. La lumière met tant de temps pour vous parvenir, à des lumières, etc., et peut-être qu'ils sont morts il y a 10 ans, 100 ans, un siècle, 1000 ans, mais vous les voyez encore. Alors là, pour moi, ça a été un choc absolu. Un unique choc scientifique. Je l'ai pris à bras le corps, je me suis dit, je vais être proche à ça, je vais rester en merveilleux, on va laisser les scientifiques faire du fantastique.
Je crois qu'il y a une autre question.
D'après ce que j'ai compris à peu près, vous avez tous créé un monde ou une réalité. Je voulais savoir si vous avez d'abord créé cette réalité avec ses règles, ses normes, et après vous avez fait évoluer vos personnages dedans, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est ensuite le personnage et au fur et à mesure que vous écriviez, vous avez développé le monde et la réalité autour.
Alors moi, mon univers de ville, Grand Empire, je suis parti d'abord de l'univers. J'ai fait la ville, j'ai fait le plan, j'ai délimité les quartiers, j'ai mis les boutiques, j'ai mis les gens dedans, et après j'ai inventé mes personnages principaux, je les ai fait évoluer en fonction des quartiers, en disant, ouais, bon, à tel endroit, il se passe telle chose à telle date, et l'histoire s'est faite après l'univers.
Quelques qui sont les romans que vous avez écrits, les caractères sont la première chose. C'est la chose, l'élément très important, plus important. Après ça, l'écriture de roman, c'est un peu facile. C'est un peu facile, a little easier. Mais si les caractères sont mauvais, je suis très très désolé. Sorry. Si les personnages sont mal, le roman est mal. C'est tout. Je commence avec les personnages.
Pour moi, c'est la même chose. En fait, le roman commence pour moi d'une petite image, d'une petite idée, d'une petite scène que je l'appelle le petit œuf. Et c'est toujours un personnage que je vois qu'il fait ou qu'il est comme ça, d'une certaine façon, dans une certaine situation. Et en fait, le personnage, c'est comment faire de la connaissance d'une personne réelle. Dans le premier moment, tu le connais très peu. Et après, le personnage te raconte son monde, sa situation, ses idées, sa vie et tout le tour. Et en fait, je crois que le romancier mature sont ceux qui ont appris à écouter ce personnage. Parce que le jeune romancier fait le personnage parler pour lui, vous savez. Et tu dois apprendre à écouter tes personnages.
Pardon, peut-être les personnages créant le monde, vous ne créez pas le monde. Les caractères, les personnages, c'est leur responsabilité, peut-être.
Évidemment, je ne fais pas du tout comme ça, et ça ne se passe pas comme ça. En fait, pendant ça peut prendre des années, et je vais choisir un sujet. Et souvent, c'est plutôt le sujet qui me choisit, c'est plutôt comme ça que ça passe. Il y a des sujets qui sont dans l'air, et puis je vais commencer à intéresser à un sujet. Alors, il y a 10 ans, je me suis intéressé au mécanisme de la magie dans la prostitution africaine en Europe. C'est très précis. Hein. J'avais lu un article sur Internet où les filles qu'on voulait amener de force en Europe pour se prostituer, les filles africaines, on leur faisait subir des cérémonies magiques et que ça les brisait mentalement. Il y avait des tas de phénomènes psychologiques. Et donc, je me suis intéressé à ce truc-là et j'ai gardé ça dans ma tête pendant 10 ans. J'ai écrit des bouts de machin. Et puis, au bout de 10 ans, y a une histoire qui est née et j'ai commencé à savoir ce que je voulais écrire. Et donc, il y a des personnages qui sont nés. Et j'ai écrit l'histoire et les personnages en même temps. Et c'est souvent des sujets comme ça. Pendant des années, je voulais écrire sur les samouraïs. Et j'avais aucune histoire, aucune idée ou quoi que ce soit. Je voulais juste écrire sur les samouraïs. Et donc, je me suis renseigné sur les samouraïs. J'ai vu des films de samouraïs. J'ai lu des trucs sur les samouraïs. J'ai appris à forger une épée samouraï, voir comment on faisait, etc. Et puis, un jour, je suis tombé sur une petite anecdote sur Miyamoto Musaki, qui est un samouraï très célèbre, japonais, qui avait, entre guillemets, il pouvait tuer 3 adversaires dans la même seconde. C'est ce qu'on disait. Il avait vaincu le temps. Et je me suis dit, tiens, super, un samouraï qui vainc le temps, voilà, c'est mon sujet. Et donc, mon personnage, c'est Miyamoto Musaki. Et paf, j'ai mis des années à écrire ce livre qui est devenu La Voix du Sabre. Et moi, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment le sujet, comme là, ça a été l'écologie, qui était un sujet qui m'intéresse depuis 10-15 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un recueil de nouvelles sur l'écologie. Et j'ai fait, en un an à peu près, 5-6 nouvelles sur l'écologie. Et j'avais le sujet, j'ai lu des tas de choses sur ce sujet, sur la deep écologie, sur la disparition des tigres, sur Fukushima, sur Tchernobyl. Et il y a lentement un espèce de phénomène d'évaporation. Il y a des histoires qui sont remontées, et avec les histoires, les personnages. Mais ce n'est pas les personnages qui naissent d'abord et qui racontent leur histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet et ce que je suis capable de faire avec mes maigres moyens dans ce sujet-là. Et c'est souvent... c'est toujours des défis. J'essaye de me dépasser. Chaque fois que j'écris un texte, j'essaie d'être meilleur que la fois précédente et de me dépasser, de me dire, tiens, là, je vais mettre telle contrainte et je vais faire comme ça.
Well, la recherche, c'est très important, mais absolument. Pour moi, l'écriture de roman, c'est un effort de deux ans. Pour le premier an, c'est la recherche, c'est, je pense sur le roman, les personnages, et après ça, c'est mouvement d'écriture. Et c'est possible d'écrire un roman et à la même temps de penser à le roman prochain. Oui? J'ai écrit 20 romans maintenant. Et le problème dans mes premiers romans a été que j'ai été en amour, is there the word in love?
Amoureuse.
J'ai été amoureuse de la recherche. Ok? Parce qu'il y a un grand effort de faire la recherche. Quand un jeune écrivain, vous ne voulez pas dispenser avec la recherche, avec all your efforts, all your work.
Toutes les références.
Toutes les références. Maintenant, j'ai réalisé que c'est important de décider des éléments de recherche qui sont les plus importants. Et c'est seulement une personne. Et 99% n'est pas important. C'est les éléments. Mais encore, je commence avec des personnages. Et des personnages décident le monde, et après ça, je commence la recherche pour le monde. Oui?
Y a-t-il une autre question? Écoutez, l'heure a tourné. Je crois que nous pouvons vraiment remercier nos auteurs, et en particulier Rosa Montero et John Connolly, pour avoir exprimé dans un français absolument excellent des idées qui étaient parfois très difficiles. Vraiment, merci beaucoup et merci à tous les quatre.
Merci.